L'instantané de Xavier Cuvier sur RCF.
Et cette semaine, c'est le retour d'une célébrité tourangelle, on peut le dire, on peut le présenter ainsi. Depuis le temps, il fait partie des monuments de la ville de Tours. Bonjour Nello.
Bonjour, comment ça le retour?
Le retour de quoi? Attention. Bah, tu sais ce qu'a fait celle de Cannes, il y a ton fauteuil avec Nello quand cela. Tu viens au studio de RCF. Alors, un Covid qui s'est bien passé pour toi parce que tu as réfléchi, tu as eu plein d'idées, plein d'envies et tu t'es dit qu'en fait, bah, c'était surtout une renaissance.
Ah bah c'est surtout de réinventer chez Nello le cabaret, c'est surtout ça. Cette envie de réinventer, l'opportunité s'est présentée.
Alors, on connaissait le cabaret chez Nello, rue Auguste Chevalier, un établissement de 80 places, avec des soirées, des matinées. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Hein. C'était une...
Oui, mais il manquait quelque chose. Et aujourd'hui, cette opportunité d'avoir trouvé ce nouveau lieu, cette nouvelle adresse, ce nouveau local, me permet de justement proposer un peu plus grand et surtout d'avoir... plus de public, mais surtout aussi de développer quelque chose que je rêvais depuis longtemps, c'est de créer un centre un peu culturel, ça veut dire d'intérêt culturel, non pas simplement chez Nello le cabaret, un peu plus musical aussi.
Mais quoi, tu laisses tomber ton boa et tes plumes?
Ah non, l'esprit du cabaret chez Nello, il va être ancré, que les gens ne soient pas, je veux dire, quand ils vont être surpris, mais dans le bon sens, ça veut dire qu'ils vont retrouver le même esprit, pratiquement le même décor avec quelques beautés.
Donc c'est Nello avec une offre plus riche.
Ben, c'est un peu ça, de réinventer le cabaret et puis proposer d'autres opportunités. Et surtout, ce qui va me donner la chance, c'est que dans le lieu où je vais être, tu vois, on est quand même dans un endroit que, je veux dire, le devenir de ce quartier est très prometteur et enrichissant parce que ça va pouvoir enfin... Tu sais, les autocaristes qui venaient, que je faisais du tourisme français, made in France, mais que j'avais aussi la proposition d'ailleurs, de même de l'Espagne, etc., et Belgique, mais que je ne pouvais pas parce que je n'avais pas la capacité d'accueil. Et aujourd'hui, ce côté touristique peut se développer, ce qui m'enthousiasme.
Voilà, donc on connaissait les châteaux de la Loire, il y a un château de plus aujourd'hui.
C'est ça.
Il laisse donc le quartier Rabelais pour passer dans l'hypercentre de Tours, puisqu'il investit le quartier du Champ-Giraud, bien connu. Alors, bien connu pour les côtés administratifs. Et puis, bah, Nello, il n'a pas trouvé mieux que l'ancien Pôle emploi.
Bah, écoute,
tout le monde y est passé.
Peut-être que, comment ça, tout le monde? Oui, moi aussi, j'y suis passé. C'était déjà ouvert au public. Mais on cherchait autre chose. Hein. Que là, on vient retrouver autre chose. Voilà. Le côté magique, toujours, et la bonne ambiance.
Rien ne se fiche, tout change. Donc, l'installation dans un espace beaucoup plus grand, donc l'ancienne agence Pôle emploi du centre de Tours, rue du docteur Herpin.
C'est ça, c'est 9 rue du docteur Herpin.
Voilà, 9, vous vous rappelez bien, 9, tout sera 9 de toute façon, parce qu'il est en plein travaux.
Et tu viens de me faire penser à quelque chose, au cabaret rue Auguste Chevalier, j'étais le 8-10. Et là, tu vois, il manquait 9.
Voilà,
9
donc il va falloir continuer comme ça.
Voilà, mais j'y suis. Hein.
Alors, on l'a dit, un établissement bien plus grand,
oui.
C'est surtout une capacité de confort, déjà pour les artistes.
Aussi, parce qu'en fait, tout va être plus grand. Les loges, la scène et l'espace. Mais je continue à dire que ce côté cosy par rapport à l'ambiance qu'on va créer, on va garder l'esprit du cabaret qu'aujourd'hui, cosy. Tu vois, on arrive, il y en a 80, on dit, ouais, c'est complet. Mais si on est 120, 130, ben, c'est complet. Mais je ne veux pas que ça se voit. On va voir dans la grandeur de la scène, parce que déjà, le rideau, là, ça faisait à peu près 4 mètres sur 3 en hauteur. Là, ça va être 7 sur 5. Enfin, tu vois, ça change. Et ça va nous changer.
Voilà, on va faire des arabesques un peu plus grandes, des enjambées aussi.
Offrir toujours des moments magiques au plus grand nombre de personnes, du public.
Voilà, c'est les nouveautés, donc on l'a dit, nouveau lieu, nouvel espace, nouvelle cuisine également, puisqu'il y aura toujours la partie restauration, dîner-spectacle.
C'est le dîner-spectacle, comme d'habitude, voilà. Mais aussi, je peux continuer à faire aussi que je ne pouvais pas, parce que j'ai eu les propositions, les autocaristes qui viennent visiter, justement, comme tu dis si bien, les châteaux et le tourisme, de le développer, parce que j'ai eu la chance d'avoir des autocaristes qui téléphonaient à l'office de tourisme avant, ils réservaient chez moi, ils réservaient après la visite, après. Parce qu'ils voulaient qu'ils puissent avoir la place chez moi.
Pour savoir si on faisait les châteaux en même temps ou pas.
Voilà, c'était quand même intéressant. Et c'est là que je voulais développer davantage.
Tu dis, il y a un truc, il y a un truc à faire.
Bien sûr, parce que je fais ce qu'on appelle les revues champagne, comme le nom l'indique, même s'ils ne viennent pas dîner, qu'ils viennent simplement voir la revue, qu'ils font la visite du château, etc. Ils viennent chez moi pour terminer la belle journée et la belle soirée avec ce qu'on appelle la revue champagne, autour d'une bouteille de champagne pétillante.
À défaut de rencontrer François Ier, vous rencontrerez Nello.
Quand on est sur scène, on est un peu roi, on est un peu reine.
Oh ben ça, c'est depuis le temps que tu le cries haut et fort.
Quelle veine.
Alors justement, on l'a dit, donc ça, ce sera à partir du mois de septembre. Mais tu as rajouté quelque chose. Donc, on connaissait chez Nello, mais maintenant, c'est...
Alors, ça veut dire qu'en fait, pour faire un peu la différence, parce que le cabaret chez Nello reste immuable, je garde pour ça, c'est simplement, comme je poursuis un rêve, c'est une nouvelle expérience, j'ai rajouté chez Nello la belle vie. Oh, la belle vie, chez Nello, sans souci, sans problème. Ah oui, ça y est, ça va être le générique.
Oui, je sais, j'ai des...
On a adapté les mots, et puis on va le faire comme un générique. Que tout le monde, je veux que tout le monde chante.
Je connais une prof de piano qui travaille sur ça.
T'es déjà dans le secret.
Je suis dans tous les secrets, tu sais bien. Secret des dieux depuis longtemps. Voilà, donc on sait tout ça déjà. Donc tu l'as dit, la belle vie, ce sera aussi autre chose que le cabaret, puisque tu as proposé bien d'autres choses. Il va y avoir des rencontres, il va y avoir des artistes, parce que tu as un book qui est assez important. Ton parrain sera également de la partie.
Oui, c'est Pierre Porte.
D'ailleurs, il est en train de chercher un piano.
Le pianiste de ce qui a écrit, compositeur de toutes les musiques depuis 35 ans du Moulin Rouge. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et que j'ai le privilège d'être mon ami, donc de le demander de venir justement être là pour la première. Que je dise que les gens ils demandent, je ne fais pas d'inauguration parce que c'est très confus pour moi. Tu me connais ? Mon cœur, de plaire au déplaire, ça va être très compliqué. Donc, je fais plutôt 3 jours de porte ouverte pour faire avec un guide joyeusement. Et je ne fais pas, je ne dirais pas inauguration, je fais une première, mais c'est simplement, chez Nello continue, 8 rue Auguste Chevalier, au 9 rue Docteur Herpin. C'est ça que faut les gens comprennent et qu'ils ne m'en veulent pas, que je n'ai pas invité pour l'inauguration, parce qu'au risque d'oublier, c'est moi qui vais être malheureux. Mmh. Et je ne veux pas rendre les gens malheureux. Donc
ça, ce sera en septembre. Hein.
En septembre, si tout va bien, on espère, on croise
tous
les doigts.
Tous vaccinés, donc voilà, d'ici là, tout ira bien.
Et puis voilà, avec mon équipe, on est très content de pouvoir partager cette nouvelle aventure. Je tiens à la partager avec mes partenaires, mon équipe qui m'accompagne depuis longtemps, quelques années, qui reste fidèle et investi. Et ça, je tiens à le signaler, car si je me suis lancé dans cette aventure, je les ai demandé et tout le monde a dit, on te suit, évidemment.
On y va.
Et donc ça, c'est très important aussi.
Alors, tu veux ajouter bien évidemment des animations
Oui, alors comme tu le dis, j'espère pouvoir cultiver donc le satellite, c'est Cabaret chez Nello qui fait donc la même revue, même ambiance, etc., qui reste donc le vendredi, samedi soir, comme d'habitude. Et puis, je vais rajouter des manifestations autres, un peu comme un centre culturel sans être la prétention d'inviter des artistes depuis le temps que j'aimerais avoir des artistes que je connais, connus aussi, et de le faire venir parce que de créer vraiment une autre intimité dans cet espace.
On se souvient, il y a des années, pour les plus fidèles des Tourangeaux, de la Poplexie, par exemple, qui avait des soirées avec Mort Schumann ou Nicole Croisi, autour d'un piano, c'était un esprit, c'était autre chose, et ça manque, ça n'existe plus.
Exactement, c'est de développer ce côté-là, de pouvoir avoir des vedettes
des
qui viennent,
comme ça,
des offres, et même de créer, pourquoi pas, une clientèle qui peut être un club. Un club qu'on les envoie, comme tu sais, en disant tel jour, comme j'ai le privilège de pouvoir réserver avant. Et ça, j'ai déjà des amis comme Emilie Image, tu vois, entre autres, qui m'a dit, tu nous le dis, on sera avec toi.
Des fidèles aussi, hein, ils ont toujours été là.
Des fidèles, des amis, voilà, que je
ils ont bien connu la rue Auguste Chevalier, donc ils connaissent trop la rue.
Je ne veux pas le citer, voilà. Et j'espère aussi que l'endroit va devenir aussi connu, parce que tu sais que j'ai eu chez Nello Auguste Vanessa Paradis dans un film.
Oui, qui est venu tourner d'ailleurs. Ils ont tourné là. Ils ont tourné dans ton décor.
Oui, j'espère que cet esprit-là va rester pour justement que ça continue à le faire.
Et puis la danse, parce que tu vas aussi ouvrir les après-midi à la danse.
Déjà, on danse nous-mêmes. Oui, alors, c'est bon.
Tu danseras peut-être pas le week-end de l'après-midi.
Non, c'est de créer. Je rêve de quelque chose aussi. En fait, tu imagines, est-ce que je vais encore avoir le temps de faire tellement. Je poursuis tellement de rêves que je vais essayer de réaliser justement. C'est de créer sur. Étor scolar, le bal.
Avec ce parquet, ces escarpins, ces vernis noirs des danseurs.
C'était tellement l'orchestre. Super. Et je veux avoir du live en direct des 3-4 musiciens qui jouent en
quelle
direct.
Ambition, Nello, quelle ambition, Nello.
Quelle ambition. Écoute, je veux dire. Et le cabaret, j'espère ne pas dire que je le fais anti-Covid, que ça n'en parle plus, mais du moins, anti-morosité, oui.
L'anti-morosité, vous avez le badge anti-Covid, Nello il a déjà le badge anti-morosité. Voilà, donc c'est l'esprit, vous voyez complètement le bal des Torres Scolar, ça restera les après-midi de danse pour l'automne et l'hiver.
C'est ça, c'est tellement beau, et puis j'ai, évidemment que je ne veux pas tout dévoiler, ils découvriront au fur et à mesure, j'ai des idées qui s'affusent là-dedans, ça n'arrête pas. Mais depuis, tu sais, je n'arrête pas de
Il allait très tiré, parce que le matin, il a les pieds dans le béton et les bottes et la peinture, et la nuit, il ne se repose pas, il cultive encore.
Regarde-moi bien, il dit que j'ai rajeuni.
C'est l'effet Covid, ça, vous savez. Tout le monde a rajeuni, tout le monde est bronzé, tout le monde est beau. C'est vraiment une note d'optimisme.
Tu rigoles, mais c'est un incroyable défi quand même, parce que voilà, et j'espère que c'est le public qui va m'aider à surmonter ce défi. C'est mes amis, les gens qui m'aiment, que j'aime. Donc c'est réciproque, c'est un partage, c'est toujours, moi je ne suis que le marchand de bonheur et que j'espère apporter le bonheur à tous ces gens.
Je suis le marchand de bonheur.
Voilà, c'est ça, mais c'est un peu ça. Tu sais, qu'ils puissent le surprendre encore et puis de parvenir toujours à la séduire, c'est ça mon but.
Voilà, ça c'est intéressant de le noter. Alors on vous le répète, c'est Chenello, la belle vie, ça va y avoir plein de choses derrière tout ça. Une note relativement optimiste après ces mois de... on était tous enfermés, là on va pouvoir sortir et profiter de tout cela. Donc ce sera à partir du mois de septembre. Pas d'inauguration officielle, il l'a dit, il ne veut vexer personne. 3 jours non-stop d'ouverture où tout le monde pourra...
Avec des guides, on le présente, on a le petit pot d'amitié, etc. Convivial, amical, avec la musique, etc. Voilà, je ne veux pas vexer personne, parce que sinon c'est très difficile, très complexe pour moi. Tu sais, j'oublie. On va me rapprocher.
C'est clair.
Reprocher, pardon. C'est pas évident.
Voilà. Donc ça, c'est noté. Et puis n'oubliez pas qu'il y aura un site internet, bien évidemment, où vous allez pouvoir faire vos réservations, parce qu'il faudra aussi réserver pour la suite des événements. Et puis, bien évidemment, la mise à jour de la page Facebook pour avoir tous les commentaires et toutes les actualités, puisqu'il y aura aussi des vedettes qui passeront régulièrement.
J'espère.
Chenello.
Peut-être avec ton partenariat.
T'inquiète pas, il y en a qui vont venir. Voilà, donc tout ça c'est noté. En tout cas, Nello, un beau projet, une belle aventure qui se poursuit à Tours. Tu n'as pas snobé la Touraine.
Non. C'était important pour moi. C'est une belle histoire, je le dis, cette création, cette nouveauté. C'est une belle histoire humaine. C'était long, un petit peu, d'en arriver là, mais on y est, et maintenant, on attend l'ouverture.
Voilà, rendez-vous donc en septembre, on en reparlera bien évidemment sur Zonde RCF. Merci Nello.
Merci
et puis,
à toi.
Bel été quand même, repose-toi.
La belle vie, chez Nello, sans souci, sans problème.
RCF, vivez au rythme du centre Val-de-Loire. RCF, l'invité.
Bonjour à toutes et tous, nouveau rendez-vous consacré aux livres, à la littérature, à celles et ceux qui les portent, qui les font vivre, qui les animent, à savoir les auteurs. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Ismaël Saïdi, qui n'en finit pas de semer des petits cailloux de tolérance depuis maintenant près de 7 ans. Ismaël Saïdi, bonjour.
Bonjour.
C'est un vrai plaisir de vous accueillir ici à l'occasion de la parution de votre livre « Comme un musulman en France », publié aux éditions Autrement Flammarion. Alors, vous avez l'habitude de vous définir, non sans drôlerie, comme une lasagne identitaire. Alors forcément, je me suis posé la question, à quoi ressemble une lasagne identitaire? Et ensuite, cela me donnera l'occasion de faire votre vrai portrait. Alors, dites-nous.
Alors déjà, bonjour et merci de m'accueillir. Moi, je suis hyper touché et ému d'être là parce que c'est ma première sortie depuis le confinement. Et voilà, je suis touché de la faire chez vous. Alors, la scène identitaire, j'ai toujours un problème avec les cases. J'ai jamais aimé qu'on me mette dans une case. Et à force de vie, donc au haut de mes 44 ans, j'ai découvert que l'identité, c'était quelque chose qui est multifacette. Et je me définis comme une lasagne identitaire. Et donc, je me dis qu'il y a plusieurs couches dans une lasagne. Hein, c'est comme une vraie lasagne. Je suis belge. Première couche, d'origine marocaine, deuxième couche, de confession musulmane, parce que c'est la religion que j'ai choisie là aujourd'hui, peut-être que demain j'en aurai une autre, mais donc troisième couche, de culture judéo-chrétienne, parce que j'ai grandi, on en parlera tout à l'heure à Bruxelles, dans les écoles catholiques et les églises, et enfin laïque, donc dernière couche. Et comme pour une lasagne, on a mélangé des choses qui n'étaient pas censées se mélanger au départ, en fait. C'est rare de mélanger de la viande, du lait, des pâtes. Ça a même l'air d'être un peu ragoûtant si on le raconte comme ça, mais au final, c'est très beau, une lasagne, c'est très bon, parce qu'on a mélangé des choses qui n'auraient jamais dû se faire. Donc c'est ça, ma lasagne.
RCF, le portrait de l'invité.
Ismaël Saïdi, vous êtes né le 20 septembre 1976 à Saint-Josse-Tanoud, en Belgique. Vous êtes le deuxième fils d'une fratrie de cinq. Vous avez grandi à Schaerbeek, où vous avez fréquenté le catéchisme d'une école catholique. À 20 ans, vous vous engagez dans la police, où vous rencontrez votre épouse, avec laquelle vous avez eu trois enfants. Parallèlement, vous avez obtenu aussi une licence en sciences sociales à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Vous vous orientez rapidement vers la réalisation et le théâtre dans les années 2010, mais vos œuvres restent encore confidentielles. Après 16 années passées dans la police, vous choisissez de vous consacrer totalement à des activités artistiques. En 2015, le public vous découvre grâce à la pièce de théâtre humoristique « Djihad », soutenue et largement subventionnée par des personnalités politiques. Dans une Belgique profondément meurtrie par les attentats terroristes, la pièce est déclarée officiellement outil pédagogique et d'utilité publique. Dans ce contexte, vous devenez en fait un phénomène médiatique, d'abord en Belgique francophone, puis en France et en Suisse. Vous avez publié « Rachel et Rosa » aux éditions Jourdan en 2016, « Les aventures du petit Ismaël », La boîte à Pandore en 2017, Moi, Ismaël, un musulman d'ici, chez Librio en 2017, en collaboration avec Rachid Bensim, vous publiez finalement Il y a quoi dans le Coran, La boîte à Pandore 2017, GN, qui est votre deuxième pièce de théâtre sur la vision de l'enfer, aux éditions Ballant, et en collaboration avec Michael Privot, Mais au fait, qui était vraiment Mahomet, chez Flammarion en 2018. J'ai bien résumé votre parcours.
Il y a quelques petits trucs que je pourrais corriger, mais c'est pas mal. C'est
alors
pas mal,
dites-nous, quand même. Allez-y.
Dans l'ordre, GN, c'est ma sixième pièce de théâtre, parce que j'en avais fait avant Djihad.
Oui, mais c'est la deuxième qui a été éditée, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, qui a été éditée, voilà, vous avez raison. Le petit truc sur le fait que les pièces avaient été largement soutenues par la politique, en fait, c'est complètement faux. C'est un truc qu'on trouve sur Internet, mais complètement faux. Djihad était d'abord sorti de manière complètement anonyme parce que personne n'en voulait le 26 décembre 2014 jusqu'à ce que malheureusement il y ait des attentats trois semaines plus tard à Paris. Et comme nous on remplissait déjà les salles avec Djihad mais sans la moindre publicité, il y a des médias qui se sont intéressés à Djihad et d'accord. C'est comme ça qu'elle a fini par devenir outil. Donc c'est un peu un mix, mais sinon c'est très très bien. Alors je vais quand même me permettre de vous corriger deux choses. On dit Schaerbeek, les Français savent pas le dire, on dit Schaerbeek, voilà, et Saint-Josse.
D'accord. Alors, depuis maintenant plusieurs années, grâce à votre pièce Djihad, vous parcourez la France du nord au sud et d'est en ouest. Est-ce qu'en quelques secondes, vous pouvez nous faire un diagnostic de la France d'aujourd'hui ?
Oui, vous avez le plus beau pays du monde. Déjà, on va commencer par ça. Et c'est un Belge qui le dit, donc il n'y a pas de chauvinisme là-dedans. J'ai rarement vu un pays avec autant de différences, parce que ce qui m'a fasciné chez vous, c'est que la Bretagne, c'est pas Marseille, Marseille, c'est pas Dax, Dax, c'est pas Lille.
On est dans le millefeuille.
Et c'est exactement ça. Et par contre, alors rapidement, comme vous m'avez demandé d'être rapide, par contre, tout le monde est relié dans ce pays, malgré les différences, par cette fameuse identité française. Et j'ai trouvé ça hyper fascinant et hyper touchant.
Elle n'a pas un peu souffert, cette identité française, au cours de ces dernières années, et peut-être aussi en particulier au cours de ces longs mois d'interruption à cause de la crise sanitaire ?
Oui, Oui, elle souffre, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de choses. Oui, cette identité souffre, elle reçoit des coups, elle est parfois blessée, elle tombe à genoux, elle est griffée parfois, mais elle tient en fait, elle tient, et je pense, c'est ça que j'ai vu dans votre pays, c'est qu'elle tient en fait.
Alors que répondez-vous à ceux qui vous disent que la France va mal ?
Je répondrai que le monde entier va mal, que c'est l'humanité, qu'on a eu des périodes de guerre, des périodes sans guerre, que l'être humain, malheureusement, en arrive parfois à s'entretuer, pour les, toujours d'ailleurs de mauvaises raisons. Mais je pense que la France va bien, en fait. Vous savez, la France va mal quand si vous allumez la télé le matin. Et effectivement, à la télévision, et ce n'est pas la faute des médias, mais à la télévision, on vous montre ce qui est spectaculaire. Ce qui va mal, c'est rare que vous voyez une émission où on vous parle de votre voisin qui a eu un doctorat en biochimie.
Donc vous pensez qu'on met toujours l'accent sur les trains qui partent en retard et jamais sur ceux qui partent à l'heure ?
Ça, c'est nous, l'être humain. Nous, l'être humain, on râle tout le temps. Je veux dire, vous allez, si je parle de vos trains, vous n'allez pas pouvoir me citer tous ceux, 90% des trains que vous avez pris qui sont arrivés à l'heure. Vous allez vous souvenir de celui qui vous a vraiment ennuyé parce qu'il est arrivé avec 45 minutes de retard et que vous n'aviez pas à boire et que vous étiez en retard à votre rendez-vous. Ça, c'est logique. C'est humain.
Et que répondez-vous à ceux qui vous disent que la Belgique va mal ?
Comme pour la France, la même chose. Je pense que le monde va vite. Je pense que depuis un siècle, les découvertes font qu'on va très très vite et que nous, les humains, on a peur de ça. En fait, tous nos repères, il vous fallait avant deux générations pour que vos repères explosent. Aujourd'hui, il faut une demi-génération pour que vos repères explosent. Des gens de mon âge, j'ai 44 ans, donc moi, l'Internet n'existait pas quand j'étais gosse. Les téléphones portables n'existaient pas quand j'étais gosse. Donc vous imaginez ce qu'il y a eu comme transformation en une génération et demie. Donc c'est un peu normal que les gens aient peur et qu'ils trouvent que le monde va mal, mais je pense que le monde va bien.
Formidable. On avait envie d'entendre ça. Ouais, répétez-le.
Mais je pense vraiment que le monde va bien. Je pense que on se parle plus. Je pense que cette technologie, malgré tout, nous relie. Je pense qu'aujourd'hui, un gars qui s'appelle Ismaël Saïdi, qui est belge de confession musulmane, se retrouve à Tours, à RCF Radio, à vous parler à vous, qui tenez une auberge et qui m'a invité pour venir présenter mon livre. Ça montre que le monde va bien, en fait.
Alors justement, de toutes ces rencontres que vous avez pu faire à travers la France, mais aussi les pays francophones, que tirez-vous d'essentiel et que tirez-vous aussi d'essentiel pour vous ? Qu'est-ce que ça a apporté à Ismaël Saïdi ?
De découvrir... Vous savez,
Est-ce que vous avez appris des choses sur vous que vous ignoriez depuis votre plus tendre enfance, dirais ?
Oui. Par exemple, on a parlé de cette lasagne. Vous savez, la part judéo-chrétienne, ma lasagne, donc j'en parle rapidement, quand j'étais gosse, enfin quand j'avais 3 ans, mes parents m'ont inscrit à l'école du coin de la rue, c'était plus facile. Et nous, en Belgique, les écoles catholiques sont des écoles publiques aussi. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas privées, elles sont publiques, elles donnent le même enseignement. C'est une spécificité belge, mais c'est comme ça. Donc mes parents m'ont inscrit à l'école catholique et de 3 ans à 10 ans, j'allais tous les mercredis à l'église et tous les vendredis au catéchisme. Et c'était des prêtres qui donnaient cours, donc on était vraiment dans une école catholique. Après, j'ai fait autre chose du reste de ma vie, et ça veut dire que la part de judéo-chrétienté, elle est là, on fuit quelque part en moi, mais elle ne remonte pas tout le temps à la surface. Quand on traverse un pays comme la France, quand on retrouve des églises, quand on rentre chez des gens, quand on entend la bienveillance et qu'on la vit, c'est remonté à la surface. Donc j'ai appris pas mal de choses sur moi et mon rapport à ça aussi.
RCF, la critique littéraire de Christophe Lagorce.
Attention, amis lecteurs, il est évident que vous lirez ce récit document d'une seule traite, tant les divers témoignages et réflexions sont intéressants, teintés de drôlerie, mais aussi de gravité, et absolument représentatifs de la société actuelle. En novembre 2014, l'ex-policier devenu dramaturge Ismaël Saïdi crée la pièce Djihad, qui raconte de façon tragicomique l'expédition de 3 jeunes bruxellois, ressemblant étrangement à 3 pieds nickelés, partis faire le Djihad en Syrie. Au départ, seulement 5 représentations étaient prévues et assurément, l'auteur était bien loin de penser que son texte connaîtrait un tel succès et serait interprété dans les théâtres, les collèges, les lycées, les prisons, les MJC et serait l'occasion de sillonner l'Hexagone, pas que, et d'engager sans aucun tabou des discussions, de nourrir des échanges et des rencontres avec le public à l'issue du spectacle et ce, en pleine période des attentats. Fait de 12 chapitres assez brefs, ce livre plaisant instructif et plein d'humour, se présente comme un recueil de tous ces débats sur les religions, l'islam en particulier, sa place dans la société, les amalgames, les préjugés, les haines, les craintes, mais aussi les espoirs. Le lecteur découvre un homme d'une grande patience, toujours pédagogue et animé par cette volonté de tendre la main afin de lutter contre les obscurantismes qui enquistent nos esprits et de semer de multiples petits cailloux de tolérance. Malgré tous les obstacles, c'est un combat d'utilité publique à l'image du livre. Comme un musulman en France n'en finit pas de démolir tous ces clichés qui alimentent les nombreuses dérives qui menacent l'équilibre de nos sociétés et le vivre ensemble. Votre regard sur ma grille de lecture de votre texte.
Ben, je suis hyper intimidé parce que ça me touche d'entendre ça. Moi, je voulais juste... Quand il y a eu le confinement, j'ai pu m'arrêter. Ça faisait 6 ans que je ne m'arrêtais pas. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder derrière moi et j'ai vu le chemin parcouru. Et je me suis dit, j'ai envie de le partager avec des gens. J'ai envie de partager toutes ces rencontres.
Mais sans la pièce, il n'y aurait pas eu le livre.
Non, sans la pièce, il n'y aurait pas eu le livre. Sans la pièce, il...
Combien de spectateurs au total ?
C'est des chiffres qui font peur. 1 million. 1 million. 1 million, même plus. Maintenant, 1 500 000 personnes. On a joué plus de 1050 fois. Elle est traduite et jouée au Japon, en Italie, en Allemagne, en Hollande, en Suisse, en Pologne, en Grèce, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Canada. Le texte est dans les programmes scolaires en France. Donc, c'est un truc qui vous dépasse complètement, je dirais. Justement, parce que ça me dépasse, j'y pensais pas. Et avec le confinement, j'ai voulu raconter... mes rencontres en France, en fait, vous savez, je suis un étranger qui est tombé amoureux de votre pays, en fait, tout simplement.
Alors justement, quand on lit votre livre, on se demande où vous puisez une telle force pour faire valoir ce discours de bienveillance qui est aujourd'hui beaucoup plus difficile à l'ère des réseaux sociaux. Comment faites-vous ?
Vous allez croire que je le fais exprès parce que c'est RCF, mais si vous lisez le livre, vous voyez que je l'ai lu bien avant. Enfin, je parle au public, enfin aux auditeurs. Si vous lisez le livre, vous verrez que c'est pas du tout de la langue de bois, que c'était déjà écrit avant. Je parlais de l'école catholique et vous savez, ils nous ont reçus dans cette école. On était des enfants d'immigrés, donc différents de tout ce qu'il y avait là. C'était le début, c'était les années 70, etc. Fin des 70. On a été reçus avec une bienveillance qui est contagieuse. Vous savez, jamais on m'a fait comprendre dans cette école que j'étais différent, que j'allais à l'église, c'était un espace pour moi, enfin tout ça. Et donc du coup, cette bienveillance contagieuse, je l'ai gardée au fond de moi, elle est encore là, en fait, elle sort tout le temps.
Merci beaucoup Ismaël Saïdi. Nous arrivons au terme de cet entretien si enrichissant. Je rappelle le titre de votre livre, « Comme un musulman en France », aux éditions Autrement Flammarion. Et je conclurai en vous citant « Merci d'être resté jusqu'au bout
». Merci.
À très vite.